Radio Cité Genève. Genève, c'est vous. Midi El Aboudi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève, c'est vous. Et Genève, c'est vous aujourd'hui, Maxime Germain. Vous êtes le directeur de la Corolle, la communauté de l'Arche dont on a parlé hier dans un premier épisode. Une communauté au sein duquel, de laquelle se trouvent eh bien, des personnes en situation de handicap mental notamment, des personnes trisomiques, des personnes autistes, entre autres. Et ces personnes-là, eh bien, vous ne les traitez pas comme des patients. Alors vous les aidez, bien sûr, à aller mieux. Il y a du personnel soignant sur place, mais surtout ces personnes-là sont incorporées, font partie intégrante d'une communauté. C'est ce que vous nous expliquiez à la fin du premier épisode, c'est qu'elles ont leur mot à dire aussi, par exemple, sur le travail du directeur, en l'occurrence vous, et que régulièrement, eh bien, tout le monde se réunissait, que ce soit les soignants ou les membres de la communauté, donc les personnes en situation de handicap, eh bien, pour donner son avis, pour donner un petit peu ses impressions sur la manière de fonctionner de l'Arche. Et c'est un mode de fonctionnement, eh bien, justement, qui marche, parce que depuis des dizaines d'années maintenant, ce lieu existe à Genève. C'est donc bien la preuve que ça marche.
Oui, alors c'est exigeant. C'est exigeant de ne pas non plus instrumentaliser les personnes en disant voilà, on va intégrer au comité ou au conseil d'administration la moitié de personnes avec handicap. Parce que c'est pas ça non plus. Mais c'est au maximum de penser les structures, les lieux où on prend les décisions, les lieux où on fait des choix ensemble. D'essayer de les penser de manière à ce qu'il y ait un maximum de participation. Et puis aussi de nous inviter les uns les autres à prendre la parole. Prendre la parole, quand on est, 100 personnes dans notre salle communautaire à se dire, tiens, est-ce qu'on part en mini-camp cette année, ou est-ce qu'on fait un événement, ou est-ce qu'on fait un flash mob sur la place à Genève devant le jet d'eau. On a fait ça il y a 8 ans, c'était excellent. On a dansé dans la ville comme ça. Bah de décider de ce programme, par exemple. Ou est-ce qu'il y a trop de... Ou les personnes handicapées peuvent dire bah oui, on vous sent un peu fatigué en ce moment, les assistants. On nous appelle souvent les assistants, les assistantes. On vous trouve fatigué. Vous devriez prendre un peu plus de vacances. Ou on est inquiet pour vous. Simplement de s'autoriser, d'être invité à avoir une parole où on construit ensemble le projet. On a un groupe de parole donc pour les personnes dédiées pour les personnes avec un handicap. On a aussi le groupe qu'on appelle le Cœur Magique, qui est un groupe aussi autour des questions d'intimité, de sexualité, d'affectivité, où il peut y avoir une expression accompagnée et qui ensuite, il y a des retours dans les instances. On a un conseil communautaire également qui est composé avec des personnes qui sont des membres de la direction, un peu comme un CODIR, un comité de direction, mais aussi des personnes élues par l'ensemble de la communauté. Donc voilà, puis on a aussi un lien avec l'Arche en Suisse. Il y a une personne, une référente nationale, puisqu'en Suisse, on a la communauté de Fribourg et puis d'Imnauen qui est à Dornach sur le canton de Bâle et qui s'assure en venant nous visiter tous les ans au minimum, faire une petite évaluation comme ça de comment se porte la communauté et comment les personnes avec handicap sont pleinement associées au projet de la communauté.
Ce fonctionnement, il est passionnant. Hein. Je pense que nos auditeurs s'en rendent compte. On va en sortir légèrement pour très vite y replonger. Parce que justement, moi j'ai une question. À force de recevoir des associations, on se rend bien compte que vouloir aider des gens, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut pouvoir bien les aider. À l'Arche, comme dans beaucoup d'associations, les degrés de handicap ne sont pas forcément les mêmes chez les personnes qui sont dans la communauté. Comment est-ce que vous gérez ça? Parce qu'il y a forcément des personnes qui sont plus demandantes, qui ont besoin de plus d'aide, peut-être au quotidien que d'autres. Comment est-ce qu'on arrive à gérer dans une communauté comme ça ces différences de traitement qui sont nécessaires en fonction des déficiences des uns et des autres?
Oui. Alors nous, notre engagement, c'est d'être assis sur un tabouret à 3 pieds. Le premier pied, c'est cette dimension communautaire. On porte un projet, un mandat ensemble et on fait communauté. On valorise la présence de chacun comme unique. On fête les anniversaires, on fait la fête, on danse, on est des célébrants. Et le deuxième pied, c'est le pied professionnel. 95% de nos équipes, ce sont des professionnels du travail social et de l'accompagnement. Avec aussi une composante autour des soins, puisque les personnes qu'on a accueillies il y a 41 ans maintenant la Corolle, on vieillit, avance en âge, certaines sont décédées. Et donc l'enjeu de pouvoir bien accompagner les aspects socio-éducatifs, psychosociaux, le soin, la santé. Donc on a à la fois des éducateurs, des assistants socio-éducatifs, des ASCC, assistants en soins, en santé communautaire, une infirmière qui travaille dans les équipes et qui sont impliqués pour mettre en place une exigence d'accompagnement autour de l'accompagnement socio-éducatif et des soins, et une exigence aussi autour de la réactualisation et puis de la mise à jour de ces compétences. Donc on a une politique de formation qui est aussi importante à l'interne, à l'externe, en encourageant, là on a une collaboratrice qui se lance dans un CAS sur l'accompagnement des comportements des filles, par exemple, ou des CAS en autisme, ou on forme aussi nos équipes sur la gestion de la violence, ou sur la question des soins palliatifs, sur la gestion de la douleur. On met le paquet ces dernières années sur tous ces espaces de formation pour faire face aussi à la diversité des handicaps, à la diversité des problématiques des personnes qu'on accueille, qui sont effectivement très diverses.
Question justement sur ces personnes que vous accueillez. Est-ce qu'il y a un tournus relatif dans ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait que les personnes rentrent ou sortent de la communauté? Comment ça se passe? Parce que vous nous parlez de la création il y a 40 ans. Justement, depuis combien de temps certaines personnes sont là? Comment est-ce qu'on peut intégrer l'Arche également?
Alors, les personnes, elles sont là, elles ont vocation à venir habiter chez elles, dans un lieu d'appartenance. Donc, on est sur un enjeu de fidélité, que ce soit du côté des collaborateurs, des professionnels, des bénévoles, des amis de la Corolle qui sont là. Certains cheminent avec nous depuis des années, nos voisins qui nous connaissent bien. Et puis des personnes accueillies aussi qui sont venues travailler et vivre dans dans un chez-soi. C'est leur maison. Donc on entre, quand on est candidat, on frappe à la porte de la Corolle, on peut être orienté par la CCI, la commission cantonale d'indication, ou par le bouche à oreille, venir frapper à la porte de la Corolle. Et puis ensuite, on fait un premier stage de 2 semaines. Et puis ensuite, s'il est concluant, si on sent qu'on a tous les éléments au vert, il y a un deuxième stage de 3 mois qui est proposé, à l'issue duquel l'admission définitive ou l'accueil à long terme est prononcé.
Il n'y a pas de date de fin quand on est admis. C'est tant que les deux parties sont d'accord, vous restez ensemble dans cette communauté.
Exactement. Il n'y a pas de contrat à durée déterminée. Et je vous dis, l'idée, c'est de se donner toutes les chances que les gens puissent trouver le bon lieu, le lieu adéquat pour vivre. C'est pas rien quand on a 18 ans ou 25 ans ou 45 ans et qu'on a tout le temps vécu chez nos parents, par exemple, qui avancent en âge et maintenant il s'agit de trouver un lieu de vie, de faire ces bascules. Donc on essaye de se donner toutes les chances de bien évaluer et bien accompagner les personnes pour qu'elles... elle trouve le bon lieu. À Genève, ces dernières années, on a été un peu confronté à ça, pas tant à un problème de nombre de places, mais un problème de places adéquates au vu des problématiques d'accompagnement et d'expression des handicaps. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi comment, au niveau de notre réseau d'établissements pour personnes avec handicap, on appelle les EPH, et notre fêtière, INSOS, AGOER, en étroite collaboration avec le département de la cohésion sociale, on travaille à faire émerger des solutions innovantes autour de nouvelles formes d'habitat ou de nouvelles prestations d'accompagnement, aussi autour de l'accueil de jour, par exemple.
C'est très intéressant cette notion de réseau, parce que les habitués de Genève, c'est vous, savent que ces différents réseaux au bout du lac, ils font énormément, parce que l'Arche toute seule ne pourrait pas faire autant que ce qu'elle fait actuellement avec le réseau. Parlons un petit peu justement de ce réseau, qu'est-ce qui la compose et comment vous fonctionnez entre vous. Alors on a bien compris que vous travaillez dans le même sens, mais parlez-nous un petit peu du fonctionnement de ce réseau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant et de tellement vital pour des associations, des structures comme la vôtre.
Complètement. Déjà, si on prend un premier niveau qui est celui de l'accompagnement de nos résidents, des personnes accueillies. C'est l'enjeu de pouvoir avoir un médecin, un dentiste, un physio ou un podologue ou voilà, mon médecin de ville qui soit là. Donc nous, on s'appuie, on n'a pas vocation à être un lieu globalisant, mais à s'appuyer sur le réseau de soins Genevois. On est aussi appuyé par, je pense, à l'association Handiconsult, Résange, qui donne comme ça des vrais espaces, des vraies ressources autour de l'accompagnement des personnes avec handicap, qui facilite par exemple les parcours d'intégration à l'hôpital, qui facilite le lien avec des spécialistes, pouvoir accéder à des soins dentaires ou à des soins gynécologiques quand on a un syndrome de Rett, qu'on n'est pas verbal et qu'on a des problématiques d'humeur variable. Ça peut être difficile finalement d'être bien soigné. Je repense à un rapport que j'avais lu il y a quelques années, sorti en lien avec l'Université de Fribourg, qui pointait que je crois 70% des personnes avec un handicap mental dans le cadre de séjour en hôpitaux était moins bien accompagné de fait que la population lambda sur ne serait-ce que de voilà pouvoir s'exprimer pour dire je veux aller aux toilettes par exemple quand vous êtes dans la confusion et ou sans les mots l'équipe de soignants est des fois un peu limitée pour bien comprendre. Donc on essaie typiquement nous on essaye de donner des clés aussi aux équipes de soignants quand il y a un séjour à l'hôpital et de détacher du personnel une heure ou deux par jour la première semaine pour faire le lien avec les équipes, expliquer, Handiconsult à favoriser aussi cet enjeu de transmission d'informations utiles pour que les équipes de soins puissent prendre en charge le mieux possible lors de séjours à l'hôpital. C'est un exemple. Ensuite, le réseau, c'est le réseau INSOS à Goer, nos EPH qui œuvrent pour accueillir des enfants, des adolescents et des adultes sur notre canton de Genève. Et on travaille de manière étroite pour faire valoir les droits et promouvoir les besoins aussi des personnes avec handicap. Et on relaie ça à nos autorités cantonales, donc le département de la cohésion sociale et notamment son office de l'action, de l'intégration et de l'insertion sociale, l'OIS, qui fait un gros boulot ces dernières années pour faire avancer l'ensemble des dispositifs liés au handicap. On avait pris un peu de retard, j'ai l'impression, sans vouloir critiquer la politique genevoise, mais quand je me tournais un peu vers le canton de Vosges, on sentait des dispositifs un peu plus avancés, un peu plus robustes à certains égards. Et là, on avance très sérieusement ces dernières années, notamment... avec un plan stratégique du handicap qui a été écrit, le premier volume, un deuxième volume va bientôt sortir et qui met en perspective l'ensemble des enjeux, des défis qu'on porte et qu'on veut porter ensemble. Je pense notamment par exemple à l'enjeu autour de l'accompagnement à domicile ou la question sur les proches aidants, la question de l'hébergement temporaire aussi à la Corolle. On porte un projet autour de pouvoir créer des foyers ou des places en foyer à temps partiel. C'est-à-dire, j'ai 18 ans, venir directement passer en institution dans un foyer, quitter mes parents, c'est pas simple. Donc on propose comme ça, sur 3, 4, 5 ans, un parcours d'intégration où je vais passer 3 ou 4 nuits par semaine au sein d'un foyer uniquement. Et puis ça me donne le temps de faire ce chemin avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mes oncles et mes tantes et mon médecin du coin pour ensuite venir habiter à Versoix dans un lieu de vie partagé avec d'autres qui sera mon chez-moi.
Merci beaucoup Maxime Germain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Corolle avec ses différents foyers et de la communauté de l'Arche de manière plus générale qui est présente dans des dizaines de pays à travers le monde et qui vient en aide aux personnes en situation de handicap mental qui leur permettent justement de trouver un toit, d'avoir un chez-soi. C'est ce que vous faites dans vos locaux à Versoix, dans vos locaux, dans vos bâtiments parce qu'il n'y a pas qu'un local, loin de là à Versoix. Vous avez beaucoup de choses et vous permettez à ces personnes de vivre le plus normalement possible en les incluant à votre communauté et également à la société. On va continuer à en parler dès demain dans un troisième et dernier numéro qui vous sera consacré. En attendant, nos auditeurs peuvent retrouver celui-ci ainsi que le premier, eh bien, en podcast sur notre site radiocité.ch.